pointe, rochons l'histoire, cherchons partout lumière et vérité.
Le quatrième âge.
Le grand problème, le problème numéro un actuellement, avec lequel on est confronté partout en France, c'est le problème de ce que l'on appelle le quatrième âge, c'est-à-dire de l'âge de la dépendance, de ceux qui deviennent dépendants par détérioration physique ou psychique de leur conjoint, de la famille, de la société.
Un débat ce 21 janvier à l'Assemblée qui précède l'arrivée de deux propositions de loi sur la fin de vie. On ne peut s'empêcher de faire un rapprochement entre cette frénésie législative, pour reprendre l'expression de Robert Badinter, et la difficile politique d'adaptation de notre société au vieillissement, je cite les officiels, dont le rythme législatif est plus lent. Combien de bons esprits ne nous explique-t-il pas que le fardeau des personnes âgées dépendantes s'alourdissant, il faudrait que la société songe à une autorégulation. D'aucuns laissent entendre qu'il faudra se résoudre à des choix éthiques entre jeunes et vieux. Mais, même si notre taux de fécondité est assez important, le vieillissement du pays, c'est mécanique. Cela devient un danger seulement si on le construit comme tel. Les mots qu'on applique à la vieillesse sont à manier avec précaution. Il y a ceux qui fleurent bon, l'or gris, le terme senior par exemple, qui désigne les gens du troisième âge comme des consommateurs bien utiles à l'économie. Mais d'autres ne désignent à l'avance que des coûts prohibitifs. Si le quatrième âge n'est que dépendance, cela sent vite la fosse.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Jérôme Pélissier, bonjour.
Bonjour.
Difficile à définir, protéiforme, psychosociologue, auteur de théâtre, maintenant une pièce sur Jaurès, et beaucoup de vos activités tournent autour de la vieillesse, plusieurs livres déjà à votre actif. Je n'ai pas l'intention de les citer, Jérôme Pélissier, parce que vous-même vous dites « mes livres seront bien meilleurs quand j'aurai 80 ans ».
Oui, même si, comme le disaient bien Molière et Brassens, le temps ne fait rien à l'affaire. Mais en effet, j'espère qu'ils seront meilleurs au fur et à mesure des années.
Oui, oui, ça c'est le dernier titre dans le domaine qui nous concerne aujourd'hui. C'était aux éditions de l'Aube, les bien nommés. Alors, votre combat incessant dans toutes ces activités liées à la vieillesse, c'est la lutte contre les représentations dominantes qui empruntent, je vous cite, les autoroutes médiatiques.
Oui, c'est vraiment un domaine où il y a énormément de clichés. Il suffit de voir déjà en quelques minutes à quel point, dès qu'on parle de ça, on est dans des catégories. Alors c'est toujours les personnes âgées, c'est toujours les seniors, etc. C'est-à-dire immédiatement on englobe dans une seule catégorie tous les gens sous le seul prétexte de leur âge. Alors qu'il y a autant de diversité entre deux vieux qu'entre deux trentenaires ou deux. Mais c'est les personnes âgées.
Avec et les représentations tout de suite... sont souvent négatives. Tsunami gériatrique.
Ah oui, alors ça c'est sur l'aspect démographique, c'est de présenter ça déjà comme un problème, comme une invasion. On a l'impression vraiment qu'il y a une invasion de vieillards qui va envahir la France. Oui, les termes, vous les avez dit, on a trouvé dans la littérature sur le sujet, oui, Armageddon gériatrique, c'est la marée grise, le tsunami gris aussi, ou enfin voilà, l'hiver, le Figaro avait titré sur l'hiver démographique en Europe, c'est-à-dire qu'il y avait la menace d'ailleurs de tous ces jeunes non-européens qui allaient, il y a derrière le choc des civilisations, on le retrouve toujours.
Simplement pour prendre des images, vous aimez bien ça, la pyramide des âges qui se terminait par une pointe devient un obélisque.
Oui, alors c'est plus du tout, c'est pour ça qu'il faut quand même rappeler les choses. C'est-à-dire quand on regarde ce que sera la France au moment où il y aura le plus de vieux en France, c'est-à-dire en gros 2050, la population française se divise en gros en trois partie égale, trois parts égales, 0-30 ans, 30-60 ans, 60 ans et plus. Autrement dit, ce que ça montre, c'est que pour la première fois dans l'histoire, il y a des gens en vie d'à peu près tous les âges. Il n'y a pas une domination ni de vieux, ni de jeunes, ni d'adultes moyens. Il y a un bon équilibre entre les générations. Donc, ce n'est pas une catastrophe. Ce qui est une catastrophe, c'est de présenter ça comme une catastrophe.
Alors, puisqu'on va parler de représentation, on pourrait commencer par une représentation positive qui a souvent eu cours, quand la pyramide était très effilée à son sommet et que la crainte ne dominait pas. Le vieillard n'était pas quelqu'un qu'on représentait un pied déjà dans la tombe, mais comme celui dont la vie avait été si remplie que sa mémoire pouvait être utile. À la Convention, on amenait des vieillards venus des départements qu'on hissait à la tribune et qu'on applaudissait.
Ils étaient... plus les vieillards sont rares, plus ils symbolisent aussi quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire justement la victoire sur la mort. Alors que plus ils sont nombreux, plus ils nous font penser à la mort, au lieu de nous faire penser à ceux qui ont survécu. Donc on avait ça, qui jouait très fortement, leur caractère exceptionnel. On avait ensuite cette figure, en effet, du patriarche. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de voir qu'on avait plus facilement la figure du patriarche, Victor Hugo, par exemple, que il n'y a pas la matriarche. Hein. Donc la figure du patriarche cache aussi peut-être une forme de respect pour les vieux hommes qu'on n'a pas forcément pour les vieilles femmes. Ça, c'est encore un...
Mais on parlait de la capacité à se souvenir, à raconter, à discuter, à imaginer,
oui.
À jouer.
Alors, ce qui est intéressant, c'est probablement y compris chez les vieux séniles ou qui radotaient. C'est-à-dire que on le sait aussi, même pour des gens qui ont des difficultés pour, par exemple, apprendre de nouvelles informations. Hein, c'est pas la même chose au niveau de la mémoire que d'apprendre de nouvelles informations et de se souvenir de celles d'autrefois. Et vous avez des gens de 95 ans qui ont du mal à apprendre des nouvelles informations, mais qui peuvent vous parler de ce qu'ils ont vu, entendu, appris dans leur enfance de façon formidable. C'est-à-dire qu'il y avait bel et bien quelque chose de très vrai dans ce rôle confié aux plus vieux d'être la mémoire et de transmettre l'histoire.
Dans notre livre d'images, Jérôme Pélissier, il en est une autre plus récente et que vous considérez aussi comme positive parce qu'elle est issue de la naissance de la sécurité sociale. Pourtant, le terme qui est utilisé quand on va inventer le minimum vieillesse, généraliser les retraites de solidarité, n'est pas très flatteur, économiquement faible. Tribune de Paris, 1948.
Un des objectifs que l'on peut donner à la sécurité sociale lorsqu'elle aura atteint son plein développement, c'est d'assurer un niveau de vie suffisant, peut-être en premier lieu aux vieux, qui ont eu une vie professionnelle active. J'entends par là non seulement les salariés, mais tous ceux qui, d'une façon quelconque, ont exercé un métier. Évidemment, tout le monde ici s'élève contre la charité, contre le fait que certains vieux qui ont travaillé toute leur vie en soient réduits à vivre de charité. Je crois qu'en effet, la seule façon de sortir de cet état de choses, c'est d'avoir recours à cette institution de solidarité générale où toutes les classes françaises viennent concourir à permettre à tous ceux qui, pour quelque raison que ce soit, se trouvent privés d'un moyen normal d'existence. Et c'est par un effort collectif et général de l'ensemble des classes sociales et par une solidarité nationale que l'on arrivera à résoudre ce problème. Il n'y aura plus là de charité, il y aura simplement des gens qui se seront ouverts des droits et des droits imprescriptibles parce qu'ils auront participé eux-mêmes au financement de toute l'institution.
Marcel Lescure. Oui, je suis bien d'accord avec vous, Michel, n'est-ce pas seulement. Alors à ce moment-là, nous nous rendons compte que l'État, lorsqu'il fait une loi, s'en attribue tous les bénéfices, mais lorsqu'il ne peut plus la réaliser, il reproche à la solidarité nationale de ne pas jouer.
Oui, il ne faut pas dire qu'il y a eu un bond en avant après les années 1945, parce que le minimum vieillesse, comme on disait, était quand même très faible, mais vous dites là, il y a un grand saut.
Oui, il y a quand même la sécurité sociale et le minimum vieillesse, plus tout un tas d'autres évolutions. On fait qu'aujourd'hui, on n'a pas en France ce qu'on avait dans les années 50, à savoir une très grande pauvreté de la majorité des personnes très âgées. Le pendant de ça, beaucoup plus négatif, c'est que les générations les plus touchées par la pauvreté aujourd'hui, c'est les générations, c'est plutôt les plus jeunes. Hein. Mais là aussi, il faut faire très attention sur ces discours économiques par rapport aux générations. Il y a autant de riches et de pauvres parmi les vieux ou les très vieux qu'il y a de riches et de pauvres parmi les jeunes. Ce n'est pas parce que tout d'un coup on est vieux qu'on devient riche, ou ce n'est pas parce qu'on est jeune, si on s'appelle Dassault, qu'on est pauvre. Donc voilà, il faut faire attention parce que parfois les catégories d'âge masquent d'autres distinctions, et notamment des distinctions socio-économiques qui sont beaucoup plus importantes.
Il est un livre assez peu connu de Simone de Beauvoir qui s'appelle « La vieillesse », où elle explique, vous la citez, qu'il n'y a aucune chance sociologique ou psychologique que quelqu'un qui n'a pas eu sa place dans sa vie active puisse passer les 20 dernières années de sa vie de retraite autrement que dans le retrait.
Oui, ça c'est. Elle commence son livre là-dessus en rappelant justement, parce qu'on parlait à l'époque justement beaucoup des problèmes de la vieillesse, en rappelant les problèmes. Il n'y a pas de problème de la vieillesse. La vieillesse est une étape de la vie qui est précédée par tout un tas de choses. Et en effet, on ne va pas tout d'un coup permettre à des gens d'accéder à la culture ou à un logement décent, etc., à 70 ou 80 ans, si les 80 ans précédents, on ne s'est pas occupé de ces questions-là.
Un mot encore qui s'est imposé à partir des années 60, 70, le mot « troisième âge », et à qui on a donné un aspect positif en faisant dominer l'hommage des seigneurs, l'image des seigneurs qui recouvrait l'image du troisième âge. Le seigneur, c'est le consommateur actif jouisseur.
Oui, c'est-à-dire, mais il y a eu une vraie découverte quand même dans ces années-là, c'est ça qui est positif. C'est-à-dire, jusqu'à présent, la fameuse ménagère de plus de... C'est-à-dire que jusque-là, au-delà de 50 ou de 60 ans, c'était les vieux, le troisième âge, et tout ce monde-là était mis dans le même sac. Et puis, il y a eu la découverte, très tardive, mais en tout cas, il y a eu quand même la découverte que tout un tas de gens de 60, 70, 80 ans, plutôt en forme, etc., n'étaient pas des vieux, qu'on était plus vieux à 70 ans aujourd'hui comme on l'était il y a un siècle. Du coup, on a créé un nouveau mot, qui a été le mot seigneur, pour parler de ces gens-là. Alors le mot seigneur, il a eu son succès à cause de ça. Il a plein d'inconvénients maintenant aussi. C'est comme il est très positif, les gens ont voulu l'utiliser pour tout. Donc vous avez aujourd'hui des gens qui vous parlent des maisons de retraite où la moyenne d'âge est de 90 ans, en vous disant c'est une résidence pour seigneurs. Et en même temps, dans certaines entreprises, vous êtes traité comme un seigneur à 35 ans, pour que vous signifiez qu'il faut commencer à apercevoir le placard. Donc voilà, ça devient tellement utilisé pour tout que ça ne veut plus rien dire.
Alors le curseur des âges avance, en effet, avec le vieillissement mécanique, démographique. Le mot quatrième âge, il est apparu à la fin des années 1970, s'est imposé dans les années 1980. Vous parliez des établissements de retraite qui recrutent surtout après 85 ans. Quel âge désigne ce mot quatrième âge ?
Je m'aurais bien une petite lichée de vin rouge avec un biscuit.
Corps solide, hein ?
Ouais, il s'affaiblit.
Bah, dame, à 106 ans, c'est pardonnable. Allons, bonsoir à tous.
Au revoir, Mina.
Bonsoir, Mina.
Bonne santé, l'empereur.
L'empereur, voulez-vous me donner ça? L'argent n'est pas fait pour s'amuser.
Et quand on n'en a pas, on s'ennuie. Je m'aurais bien une petite goutte de vin rouge avec un biscuit.
Ah non, pas de vin rouge, père.
Ah non, surtout pas de vin rouge.
Je me rappelle une fois, après la Révolution, à Auteuil. Mais ça ne s'appelait pas comme ça dans ce temps-là.
Les histoires d'il y a 100 ans, ça n'intéresse personne. Vous ne voulez décidément pas vous coucher, l'empereur.
Je me coucherai quand je voudrai.
Quelle heure est-il donc ?
La veille. L'empereur devrait être au lit depuis longtemps.
Et vous ?
Nous attendons votre arrière-petit-fils.
Quel arrière-petit-fils ?
Laisse donc, il fait exprès.
Goupy l'empereur dans Goupy main rouge de Jacques Becker, l'interprète, c'est Maurice Schutz.
Oui, alors ce que ça montre plusieurs choses, ça met notamment cette espèce de prise de pouvoir qu'on a facilement. Alors ça se remarque, vous avez déjà passé un certain âge très souvent, alors ça les médecins le voient souvent. Quand le patient a 85 ans et qu'il est accompagné par un de ses proches, le médecin pose la question au patient et puis c'est le proche qui répond. Et là on le voit bien, cette espèce d'infantilisation des très vieux, tout d'un coup on redécide qu'il n'a pas le droit à son verre de vin rouge, qu'il doit se coucher à telle heure, etc. Comme vraiment on traite les très vieux comme des bébés ou comme des enfants. Et ça, c'est encore très vrai. Hein,
alors, le quatrième âge, si on veut une définition scientifique, c'est les vieux très vieux.
Mais il n'y en a pas de définition scientifique. Déjà, parce qu'il y a une grande différence entre les gens. Les Anglais, ce qui est intéressant, nous, on parle de quatrième âge. Les Anglais ont une terrible expression, qui est l'expression « les too old », les trop vieux. C'est même plus les très vieux, c'est les trop vieux. Pour bien dire qu'il y a un moment où on considère un petit peu qu'ils ont fait leur temps. Mais ça, on le retrouve en France aussi. Hein. C'est pas parce qu'on n'a pas l'expression qu'on n'a pas le regard.
Dans un instant, chanson, mais vous expliquez qu'il y a peu de vieux sur les plateaux.
Bah, y en a peu quand on regarde les
scènes.
La plupart des... Oui, bah oui. Il y a la plupart des médias, la radio, télévision, etc.
Et sur scène non plus ? Dans les spectacles non plus.
Sur scène, peu également. Ouais, ouais.
Harold Desmaudes a été un triomphe, pourtant.
Oui, oui. Ouais.
Et nous voulions évoquer les petits pas de Jérôme Deschamps. C'était en 1987. Des comédiens, des chanteurs revenaient sur la scène ou montaient pour la première fois sur la scène à 70 ou 80 ans. Et ils partaient pour une longue aventure, le Festival d'Avignon, le Festival d'Automne, une tournée. Certains étaient remplacés quand ils n'étaient plus opératoire. Et on entend ici une femme qui a eu un rôle très important dans Les Petits Pas, qui interprète la chanson numéro 1 de 1941, celle de Léo Marjan, Je suis seul ce soir, dédiée aux femmes de prisonniers. Léo Marjan, qui elle-même, 102 ans aujourd'hui, est en grande forme.
Thank you.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Nos pensionnaires vivent ici leurs derniers jours de tranquillité.
Les derniers jours ?
Parfaitement. Cette fois, nous sommes à bout. Les charges nouvelles, l'augmentation du coût de la vie. Nous ne pouvons plus tenir. On m'a refusé tout crédit. Nous ferons l'abbaye.
Et les vieux, où iront-ils ?
Ça, je n'en sais rien. Quant à une, sans doute même pas.
Les comédiens retraités de Saint-Jean-la-Rivière, assemblés en fédération, ont arrêté et décidé ce qui suit.
Mais qu'est-ce que ça signifie ?
La direction de l'abbaye est désormais confiée à un comité élu par les comédiens.
Voulez-vous remonter dans vos chambres ?
C'est une brimade !
Oui, c'est pas à vous !
C'est la liste de nos revendications !
Mais votre attitude est scandaleuse !
C'est un ultimatum !
Un ultimatum ?
Un ultimatum ! Vous avez 10 minutes pour l'accepter !
Allez vous coucher !
Et si vous refusez, mes camarades et moi, nous partons !
Vous partez !
Nous partons !
Ah, vous ne croyez pas si bien dit ! Et vous ne savez pas où aller, je vais vous l'apprendre !
De Lormel ! Asile de recouvrance à Strasbourg ! Marny ! Hospice des vieillards assistés à Valenciennes ! Bertelin ! Hospice de Saint-André-de-Cubzac.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
La Cour, asile du Verdon, à Manosque. Verneuil, hospice de Notre-Dame-des-Monts, à Bayonne.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Ça, c'est votre affectation à tous.
Qu'est-ce que vous racontez ?
Vous n'êtes aujourd'hui que des ingrats révoltés. Demain, vous serez des vieillards dispersés dans tous les hospices de France.
Les transformations silencieuses du quatrième âge avec Jérôme Pélissier, qui a publié récemment aux éditions de l'Aube, « Le temps ne fait rien à l'affaire ». Parmi les révolutions silencieuses de ces 10 dernières années, il y a la possibilité, paraît-il, pour les pensionnaires des EHPAD, plus 60% de lits en moins de 10 ans, d'avoir des comités d'expression. Mais je ne sais pas s'ils parlent aussi fort que dans le film de Duvivier, La fin du jour, Michel Simon.
le cinéma leur donne un peu plus la parole. Une réalité qu'il faut aussi évoquer quand on parle des EHPAD, une partie des résidents qui y vivent, ils vivent finalement moins parce qu'ils sont vieux que parce qu'ils sont atteints par certaines maladies, en particulier la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées. Et c'est beaucoup plus un des problèmes aujourd'hui d'ailleurs de ces lieux-là, c'est que ce devrait être des lieux spécialisés pour le prendre soin de ces maladies, alors que très souvent ça reste des lieux justement un petit peu non spécialisés. Et du coup un décalage, un décrochage entre les besoins et la réalité.
Une grande transformation silencieuse aussi, la maison de retraite des comédiens de Ris-Orangis, fondée par Dranem, est devenue Domus. Domus vit Dranem. C'est-à-dire qu'elle a été reprise en main, elle n'a pas fait faillite comme dans le film de Duvivier, elle a été reprise en main par une des 3 grandes sociétés opératrices en matière d'établissement pour seniors qui se sont dressés ces toutes dernières années. La première société, 40 000 salariés. La deuxième société, 30 000 salariés. Domus Vie, un peu moins.
Oui, il y a 3 grands groupes qui se partagent ce secteur-là. Et non seulement le secteur des maisons de retraite, mais aussi le secteur de plus en plus de l'aide à domicile, des soins de suite, etc.
Parce que ça va se coordonner. C'est-à-dire que ce sont les mêmes fonds d'investissement qu'on va retrouver prendre place dans les conseils d'administration de ces grandes sociétés, suggérer qu'il y ait une synergie entre l'aide à domicile et la maison de retraite.
Ça peut parfois être bien quand ce sont les mêmes, on va dire quand un parcours peut être en quelque sorte suivi par une même structure, mais en même temps, il y a de grands dangers. Il y a de grands dangers que ce soit les gens qui s'occupent de la maison de retraite, par exemple, qui, selon leur taux de remplissage, utilise le vivier du domicile pour, quand ils ont de la place dans l'établissement, la remplir tout de suite, même si la personne n'en a pas vraiment besoin et qu'elle pourrait rester chez elle. Ou au contraire, lui faire croire qu'elle est très bien chez elle parce que là, il n'y a pas la place dans l'établissement. Faire à un moment ce qui va être le plus rentable, quelle que soit la réalité des besoins de la personne. Ça peut être très dangereux d'avoir cette position complètement monopolistique sur tout le parcours de quelqu'un depuis sa sortie de l'hôpital pour aller en rééducation.
Vous prenez une image, c'est comme le bassin à homard dans un restaurant.
Ça peut être le risque, ça. Qu'on ait comme ça un vivier de personnes à domicile et comme ça, l'établissement reste en permanence à 100% rempli pour être le plus rentable possible.
Voici une petite minute de publicité.
La résidence Pontcanal est un home résidentiel avec une équipe professionnelle à votre service. La résidence dispose d'un espace bien-être et centre aqua senior pour un agréable moment d'évasion. Différentes techniques pour soulager vos tensions et douleurs musculaires. Les installations sont adaptées pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite. Des soins et des cures encadrés par du personnel qualifié et par une assistance infirmière si nécessaire.
68e plus grosse fortune professionnelle de France. Voilà comment est classé cet amateur de boules lyonnaises par un magazine économique.
J'ai cru en mes produits, je suis le principal investisseur de mon immobilier.
27 millions d'euros d'investissement. Cet établissement pour personnes âgées dépendantes est en plein cœur de la capitale. Des maisons comme celle-ci, il en a eu jusqu'à 120. Et avec l'explosion démographique, toutes affichent complet. Salle de balnéothérapie, salle de cinéma, rien n'est laissé au hasard. Et les tarifs peuvent grimper jusqu'à 5 000 euros en région parisienne.
Pour déjà avoir un petit capital. Ah oui.
Et ça, vous pensez que c'est le cas de tout le monde ?
Ah non, ah, certainement pas.
La maison de retraite, un secteur rentable. En 5 ans, les grands opérateurs ont doublé leur chiffre d'affaires. Certains sont même cotés en bourse.
Et c'était il y a 3 ans sur TF1. Un nouvel établissement, ça coûte 10 à 15 millions avec le gros lot qu'a touché un habitant de Strasbourg. Aujourd'hui, on fait 5 établissements modernes qui doivent être aux normes parce que la normalisation implique la concentration. Si on met la climatisation après la canicule, ça va mettre en difficulté davantage les maisons associatives ou religieuses que les maisons privées.
Oui, oui, bah, de toute façon, les normes qu'il y a aujourd'hui, en effet, imposent des formes de partage, de réduction des coûts, etc., qui favorisent ce type de groupe. Après, la dame disait que pour vivre dans ces maisons à 5000 euros par mois, il faut avoir un petit capital. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que à moins de penser y rester que 3 mois et mourir vite, à 5000 euros par mois, le capital nécessaire va vite devenir quand même très important.
Mais parlons du point de vue de ceux qui peuvent tirer parti de la situation. On parlera tout à l'heure des retraités et de leurs ressources. Il y a aussi toutes sortes de possibilités de la silver economy, c'est un mot qu'il faut apprendre, qu'aimait beaucoup Madame Delaunay, ministre socialiste chargée des personnes âgées. Il y a toutes les ressources que la domotique, la création d'objets connectés peuvent créer. Alors Silver Valley vient d'être dessiné autour de l'ancien hospice d'Ivry.
Oui, oui, c'est très à la mode depuis quelques années. Alors, est-ce que c'est une réalité ? C'est-à-dire, est-ce que ça va concrètement donner des choses ou est-ce que c'est une bulle comme l'ont été certains sites internet ou certains... On n'en sait rien pour l'instant. En tout cas, c'est très à la mode. Tout le monde y va à fond. Ce qui est un peu inquiétant, c'est que quand on voit un certain nombre de projets, ça a l'air de beaucoup moins partir des besoins des gens que d'essayer justement de leur fourguer des appareils ou autres dont on n'a pas forcément mesuré alors ni l'utilité pour certains, ni même les dangers après en termes d'éthique, etc. Les choses très à la mode, par exemple, c'est tout ce qui touche à la surveillance. Et on fait miroiter une espèce là aussi de 100% sécurité avec des gens. Alors est-ce que bientôt on aura chez soi, on va surveiller son vieux parent qui sera sur écoute et sous caméra en permanence ? Vous savez qu'aux États-Unis, il y a quand même quelqu'un qui a lancé un concept de mobile home gériatrique, c'est-à-dire que dans votre jardin, vous mettez une sorte de caravane dans laquelle vous mettez votre vieux parent. Il y a des voilà, il y a des micros, des caméras à l'intérieur. Vous ne le quittez pas.
Je
les
sens
yeux,
vous enfin... vous énervez. Alors j'ai continué à vous aiguillonner, Jérôme Pelissier.
On en rirait presque. Parce que...
Alors, est-ce que vous riez des propositions du genre on pourrait peut-être leur retirer le permis de conduire s'ils ne peuvent plus ne pas être des dangers sur la route. Il y en a d'autres aussi qui irait presque jusqu'à leur retirer le droit de vote. Vous savez, on pourrait faire un vote pondéré. Je sais pas, 7 suffrages par suffrage de jeunes et seulement un pour les plus vieux.
Oui, mais il y a régulièrement, ça me fait en effet pas rire du tout, il y a régulièrement des gens qui, là aussi, souhaitent priver les personnes qui ont passé un certain âge d'un certain nombre de choses, y compris, et ça c'est très inquiétant, en effet, y compris le droit de vote. C'est-à-dire, sous-entendu, passé un certain âge, on ne serait plus capable d'avoir, comme n'importe quel autre citoyen, voilà.
Enfin, on aurait un droit de vote très minoritaire, c'est une proposition de Martin hier, je dirais, Orsena, par rapport à celle des plus jeunes.
Oui. Mais alors, ça peut être un début, après. C'est-à-dire que ce qui est intéressant de... Non, mais voilà, Martin Hirsch a décidé que c'était les vieux qui, politiquement, n'étaient pas conformes. Donc, demain, ça veut dire quoi ? Demain, si c'est les femmes, si c'est les juifs, si c'est les... On va pondérer en fonction de la manière dont Martin Hirsch ou conçoit l'humanité. Non, mais c'est, voilà, c'est affligeant de distinguer comme ça des catégories de la population et de proposer qu'un bulletin de vote
oui,
soit pondéré.
Au fond, il va quand même falloir faire des choix éthiques, nous disent certains. Alors, passons à un économiste libéral maintenant, Alain Cotta, que vous avez souvent dans le collimateur. Il dit c'est une préférence pour le chômage des jeunes que nous exprimons inconsciemment en mettant tant d'argent dans l'économie consacrée aux plus vieux. Est-ce qu'on ne pourrait pas inventer des systèmes d'autorégulation sociale, d'où naîtrait d'ailleurs peut-être une nouvelle fonction sociale, celle de donner la mort?
Oui, alors ça, c'est des visions très, heureusement, quand même minoritaires. Ce qui est dangereux, c'est qu'en permanence, elles opposent en effet les intérêts des uns aux intérêts des autres. Comme s'il y avait les jeunes et les vieux, que les vieux n'avaient jamais été jeunes, que les jeunes n'allaient jamais être vieux. Et comme si, on l'a bien vu dans le domaine de l'emploi, par exemple, vous avez eu des années et des années où un certain nombre d'entreprises ont viré les vieux au prétexte d'embaucher des jeunes. Ils ont viré les vieux et ils n'ont pas plus embauché les jeunes. Et dès qu'on est dans des situations de crise, ce qu'on voit bien, c'est que les plus rapidement touchés, c'est globalement les moins de 30 ans et les plus de 50. Les intérêts des jeunes et des vieux sont bien plus proches face à un certain nombre de problèmes économiques qu'ils ne sont opposés.
Alain Minc, que vous aimez citer aussi, il faudra peut-être que les plus vieux mettent la main au portefeuille et prélèvent dans leur patrimoine, ou bien il faudra prélever dans le patrimoine des ayants droit, à moins, mais ça ce serait une idée de génie, qu'on restaure ce vieux système un peu oublié, le viager.
Comment vous dire ? Vous êtes usé, c'est ça, vous êtes usé. Moi, je serai vous, je prendrai ma retraite.
Ma retraite ? C'est que ça va pas faire bien lourd.
Alors, monsieur Martinet, vous avez bien quelques petits sous de côté ?
Je vais vous montrer. J'ai acheté une petite maison au bord de la Méditerranée, dans un village de pêcheurs. Vous voyez ?
Ah, c'est bien, hein, c'est très joli. Mais votre famille va vous aider. Vous avez des enfants ?
Non.
Oui. Vous êtes marié ?
Non.
Pas de relation ? Pas de liaison ? Pas d'amis ?
Non, docteur, non. Je me suis usé tout seul.
Vous n'avez pas pensé au viager ?
Au viager ?
Oui, de viager, ce serait la bonne solution.
Je ne sais pas très bien comment ça fonctionne, le viager.
Oh, ça c'est très simple. Un enfant pourrait vous l'expliquer.
Il y a un vieux monsieur qui vend sa maison en viager à un autre monsieur. Alors, chaque année, l'autre monsieur donne de l'argent au vieux monsieur, mais la maison n'est pas encore à lui. Le jour de la mort du vieux monsieur, l'autre monsieur rigole drôlement parce que la maison est enfin à lui. C'est ça le viager.
C'est ça qui est extraordinaire dans l'histoire, des choses qu'on croyait oubliées et continuent à circuler souterrainement et redeviennent des solutions modernes. Parce que c'est bien le viager, ça fluidifie l'immobilier, ça remet sur le marché des biens qui ont été depuis trop longtemps immobilisés par les vieux.
Ce qui est très inquiétant, que ça soit par rapport au viager, que ça soit les propositions d'un Alain Minc sur le fait que les vieux doivent mettre la main au portefeuille quand ils sont malades, etc., c'est de voir comment, là aussi, c'est uniquement pour une certaine catégorie de la population que tout d'un coup, c'est plus le principe de la sécurité sociale, les gens devraient payer eux-mêmes, que c'est plus... Si quelqu'un demain doit passer 3 mois à l'hôpital parce qu'il est malade, on lui demande pas de vendre sa maison. Voilà. Si tout d'un coup il a 65 ans ou 75 ans, il devrait le faire. C'est-à-dire qu'on a systématiquement la même chose, c'est-à-dire que passé un certain âge, le principe de solidarité ou d'égalité n'est plus valable. Et ça, c'est inquiétant.
Bon, mais moi, je vous recommande de faire référence, je sais que c'est une de vos sciences favorites, à la shadocologie. Il y a un très bon principe dans la shadocologie qui est...
Alors, il y en a beaucoup, mais un de mes préférés, c'est que pour qu'il y ait le moins de mécontents possible, il faut toujours taper sur les mêmes.
Oui, parce que finalement, les très vieux électeurs, ils ne sont plus là. Après 80 ans, on commence à participer moins aux élections. On n'a plus envie ou on ne peut plus choisir. Alors, on peut taper toujours sur les mêmes mécontents.
Voilà, alors certains ont des difficultés en effet pour aller voter, d'autres ont trouvé des solutions. À une époque, dans le 5e arrondissement de Paris, par exemple, il y avait énormément de taxis le jour des élections.
Je crois qu'il y a une séance de justice aujourd'hui consacrée à cette question, on ne va pas interférer. Le temps ne fait rien à l'affaire. Alors à propos de science, je salue Jacques Sigal, dont c'était l'anniversaire hier, Guillaume Roux à la technique, Frédéric Martin, Franck Olivard et Linka Négulesco. À propos de nouvelles sciences, on parlait de shadowcologie, nous,
oui,
Mathieu Vidard,
c'est
et vous,
vrai. C'est eh ben on va frotter.
Et ça s'appelle la tribologie.
Absolument.
Ben, je ne connaissais pas non plus ce terme. Il est 14h, vous écoutez France Inter.